Cherchez dans votre Bible 2 Thessaloniciens chapitre 1. On va examiner un seul verset, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3. Une lettre à cette belle église de Thessalonique, écrite par l'apôtre Paul, Sylvain et Timothée, et voici ce qu'il dit, verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, à votre sujet, comme cela est juste. Pourquoi ? Parce que votre foi fait de grands progrès, et que votre amour, et que l'amour de chacun de vous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Dans 3 semaines, qu'est-ce qui se passe, les enfants? C'est la rentrée des classes. Et si. J'espère que vous allez passer dans des classes supérieures. La plupart des enfants, c'est leur cas, parfois, malheureusement, il y a des échecs. Mais ça veut dire que vous allez franchir un niveau supérieur. Et ça, c'est très important dans la vie d'un enfant, de passer d'une classe et d'aller de niveau en niveau. Imaginez qu'à 15 ans, vous soyez toujours au CFP, ça serait la catastrophe. Ici, l'apôtre Paul, il dit à l'école de Christ, eh bien aussi, on doit faire des progrès. Et le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul ici, loue les Thessaloniciens des progrès qu'ils ont fait dans quel domaine ? Est-ce que c'était dans les maths ? Dans quel domaine ? En foi ! Exactement, en foi ! Leur foi a augmenté. Et elle a augmenté d'une manière extraordinaire. Il dit, nous rendons grâce à Dieu à votre sujet comme cela est juste, parce que votre foi a fait de grands progrès. On ne trouve que le mot aussi grand progrès qu'une seule fois dans la Bible, et c'est ici, c'est un mot qui signifie croître grandement, au-delà de la mesure, au-delà de ce qui est normal. C'est s'épanouir magnifiquement. Est-ce que Dieu pourrait dire la même chose de notre foi? À quelques jours de la rentrée, si Paul nous écrivait une lettre, est-ce qu'il pourrait dire la même chose? Nous rendons continuellement grâce à Dieu parce que votre foi a fait des grands progrès. Est-ce que notre foi est visible et est-ce qu'elle est manifeste? Peut-être nous devrions dire comme les disciples en Luc chapitre 17 et au verset 5. Luc 17, verset 5. Les disciples demandent au Seigneur: augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et il demande: augmente-nous la foi, juste après ce que le Seigneur leur ait expliqué comment la vie de foi devait se vivre. Regardez le verset 4, il dit si ton frère a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant je me repens, eh bien tu lui pardonneras. Et alors les disciples à ce moment-là sont bouleversés, ils disent mais comment est-ce possible, Seigneur? Augmente-nous la foi, on n'arrive pas à atteindre ces choses-là, ce niveau-là. Et effectivement, nous devrions prier comme les apôtres, augmente-nous la foi. Il y a plusieurs degrés de foi. Dans une première étape de l'expérience chrétienne, notre foi, elle est miniature. Et elle a besoin de signes pour s'exercer, d'une grande émotion. Nous sommes comme Gédéon, vous vous souvenez de Gédéon qui, dans le livre des Juges, au chapitre 6, verset 17, dit « Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Et bien souvent, on est comme ça. Alors, Seigneur, donne-moi, montre-moi, fais-moi, donne-moi vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle d'une jeune fille comme ça qui voulait dire, mais Seigneur, est-ce que vraiment tu es avec moi aujourd'hui? Et puis, elle était toute jeune dans la foi, elle se baladait dans les rues de Paris. Et puis, au moment où elle faisait ça, elle tournait à la langue, et là, elle a vu un magnifique arc-en-ciel. Oh là, c'est vrai, c'est toi, tu m'envoies ce signe, tu es vraiment là avec moi. Et ça l'a beaucoup réjouie, elle était dans la joie de savoir que voilà, le Seigneur avait entendu le cri de son cœur. Gédéon a dit, mais si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, eh bien il faut que la toison soit pleine de rosée. Et c'est ce que Dieu a fait. Et il dit, mais Seigneur, si vraiment, c'est toi qui me parles, hein, je voudrais que la toison soit sèche et que la rosée soit tout autour. Et Dieu l'a aussi fait pour nous. Nous avons besoin de toucher, nous avons besoin de voir, nous sommes comme Thomas, nous avons besoin de mettre la main dans la marque des clous, de mettre notre doigt dans la main dans son côté. Si la toison est mouillée, alors nous sommes disposés à croire au Seigneur, et c'est peut-être une vraie foi, mais c'est une foi miniature. C'est une foi qui est bien imparfaite. Elle recherche toujours les sentiments ou les signes en plus de la parole de Dieu. Beaucoup vivent dans ce niveau de foi, en fonction de ce qu'ils ressentent comme sentiment, en fonction de ce qu'ils ont reçu comme signe. Leur foi est tantôt grande et tantôt toute petite. Mais selon la pensée de Dieu, cette foi-là est bien imparfaite. Par contre, c'est une marque de progrès dans la foi. Lorsqu'on croit Dieu sans sentiment, sans signe, n'enviez pas ceux qui sont toujours à la recherche de miracles pour s'assurer que le Dieu en qui ils ont placé leur confiance est bien encore vivant. Gardez-vous d'une vie spirituelle toute faite d'émotions, toute faite d'impulsions qui sont aussi fugitives. Apprenez à vivre et à agir plutôt sur le terrain des solides principes divins. C'est encore une foi plus mûre que celle qui n'a pas besoin de signes ni d'émotions pour croire. Êtes-vous capable d'aller de l'avant sans faiblir le long des chemins tout ordinaires de la vie quotidienne et de vous confier uniquement dans le Seigneur et dans sa parole? Avez-vous besoin de sentir la présence, sa présence à vos côtés? Avez-vous besoin de voir un arc-en-ciel pour croire qu'il est là? Ou est-ce que la parole de Matthieu 28:20 qui dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », est-ce que cela vous suffit? Mais il y a une troisième étape dans la foi qui dépasse celle de Gédéon et de sa toison, qui dépasse aussi celle du croyant qui n'a pas besoin de signes. Sur le premier degré de foi, c'est de croire quand il y a des sentiments, quand il y a des choses favorables. Le second degré, c'est de croire quand il n'y a pas de signes ou de sentiments particuliers. Mais il y a un troisième degré, une forme supérieure de foi qui croit Dieu et sa parole quand les circonstances, quand les sentiments, quand les apparences, quand les hommes et quand la raison humaine recommandent tout le contraire. Et aux Thessaloniciens, c'est ce qu'il dit. Regardez au chapitre 1, verset 4. Aussi nous nous glorifions, c'est le verset suivant, il dit, aussi nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Les circonstances sont toutes opposées. Et pourtant, ils continuent à se réjouir en Dieu, à placer toute leur confiance dans le Seigneur. Regardez Abraham. La Bible nous dit qu'il était âgé de 100 ans, que sa femme en avait 90, qu'elle n'était plus en âge de procréer, qu'elle n'avait même plus le désir. Et ça faisait déjà 25 ans que Dieu avait fait pour la première fois la promesse. Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Regardez dans Romains chapitre 4, et puisque Romains chapitre 4, l'exemple d'Abraham nous est encore cité au verset 18, il dit « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Vous vous souvenez quand au chapitre 15, Dieu a conduit Abraham dehors, la nuit, et puis il lui dit « Regarde, compte les étoiles des cieux, si tu peux. Telle sera ta postérité. » Et Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Il dit au verset 19, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Il a considéré quoi? Non pas son les choses visibles, non pas ses sentiments, non pas la raison humaine. Il a considéré celui qui a fait la promesse. Je reprends le passage en Luc 17 au sujet des vrais disciples. Quand ils lui ont demandé, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Voilà ce que le Seigneur leur a dit. Chapitre 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Il est en train de leur dire, je n'ai pas besoin d'augmenter votre foi, parce que si seulement vous en aviez un tout petit peu, comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à cette foi, cet arbre, déracine-toi, jette-toi dans la mer, et la chose se ferait ainsi. Il est en train de leur dire, le problème, c'est que c'est la qualité de votre foi qui manque. Oh, vous avez de la foi en quantité suffisante, mais c'est la qualité de votre foi. Votre foi a besoin d'être purifiée. Une foi toute simple, une fois pure, accomplit des merveilles. Notre foi a besoin d'être purifiée de notre propre justice. Nous pensons parfois être agréables à Dieu par nos œuvres, au lieu de nous confier en lui. Nous sommes comme Caïn qui, venant devant Dieu, avec ses bonnes œuvres, hein, avec ses mérites, alors que Dieu nous veut comme Abel, obéissant à la parole de Dieu, et nous confiant dans le sang de l'agneau pour lui être agréable. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parfois nous prions, oh Seigneur, ça fait tellement longtemps que je te prie. J'ai répété cette prière depuis des jours et des jours. Ça fait des semaines et des années maintenant. Et on vient avec tous nos mérites. Seigneur, j'ai persévéré. Tu peux maintenant me... Mais je dis, mais je n'ai pas besoin de ça. Tu m'encombres avec tes œuvres, avec tes mérites. Ce que je veux, c'est que simplement tu te confies en moi, dans ma grâce. Notre foi a besoin d'être purifiée de nos idoles, c'est-à-dire tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce qui ravive la confiance que nous devrions porter en Dieu et qui détourne cette confiance vers d'autres choses que Dieu. Notre attachement aux richesses, par exemple. Dans le Proverbe 18, verset 11, il est dit « La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. » Le riche se réfugie naturellement dans sa richesse, au lieu de se réfugier dans le Seigneur. c'est un grand ennemi de la foi en Occident que l'abondance dans laquelle nous sommes. Qui d'entre nous réclame son pain quotidien au Seigneur? Qui d'entre nous réclame la pluie pour qu'une récolte se fasse? Pas aujourd'hui, en tout cas. Hein? Qui d'entre nous supplie Dieu pour la guérison avant de se rendre chez le médecin? Qui d'entre nous répand les larmes de son cœur devant Dieu pour pouvoir payer une opération à ses enfants ou pour pouvoir l'envoyer à l'école? Voyez-vous, notre foi est embarrassée de toutes nos richesses, de tout ce que nous possédons. Et au lieu de nous confier dans le Seigneur, on se confie dans notre compte en banque, aussi petit soit-il. Parce qu'on a, on a réussi à épargner un petit truc. Si on a un problème de voiture, pas de problème. On a de quoi faire. Et toute notre vie, elle est pleine d'assurance comme cela. On a pourvu à toute chose. Mais malheureusement, si dans notre vie, si dans notre cœur, nous ne faisons pas monter envers Dieu d'abondance, d'action de grâce, pour toutes les choses et tous les bienfaits que le Seigneur nous donne jour après jour, après jour, après jour, si réellement il n'y a pas dans mon cœur, si on ne réalise pas l'amour de Dieu, la grâce qu'il nous fait, en pourvoyant nos besoins de la sorte, alors toutes nos richesses, toutes nos choses, tous nos biens vont être une malédiction pour nous. Parce qu'au lieu de nous confier en celui de qui tout don parfait et toute grâce excellente proviennent, eh bien nous allons nous confier dans les richesses que nous avons. L'idole peut être aussi un homme, un mentor, un conseiller, le pasteur même. Avant d'avoir cherché Dieu, avant d'avoir prié, avant d'avoir recherché les principes bibliques, on a déjà consulté 3 personnes. On dit, oh, je vais lui poser la question à lui, puis je vais lui demander ce que je dois faire, puis à lui. Mais jamais on s'est approché de Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin de ton conseil, j'ai besoin de ta sagesse. L'idole peut être aussi également un système, une organisation. On a toutes les solutions en réserve, on est assuré sur tout. Aussi, nous ne sommes jamais en situation de placer toute notre vie entre les mains du Seigneur. Notre foi a besoin aussi d'être purifiée de toute la force humaine. Le prophète Jérémie, au chapitre 17 et au verset 5, dit « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et ça, c'est une conséquence. Soit ma foi est dans la chair, dans les hommes, soit elle est en Dieu. Mais aujourd'hui, on est tellement capable. L'homme est tellement fort. L'homme est tellement intelligent. L'homme est tellement évolué dans sa technique que facilement, il se confie en lui-même. La Bible dit dans les Proverbes encore, chapitre 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Il y a des gens qui savent tout. Il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience. Pour eux, il est difficile de ne pas puiser dans leur réserve de connaissances et d'expérience, de sagesse, avant d'avoir cherché à comprendre le plan de Dieu dans leur vie. Vous vous souvenez de la défaite de Haï? Bon, il y a 2 causes principales. Il y a le péché d'Acan, qui avait volé des choses que Dieu avait, qui appartenaient à Dieu seul, des choses dévouées par interdit. Et puis la deuxième chose, c'était la prétention des hommes. Jésus a dit, oh, c'est pas la peine de faire monter tout le peuple vers Haï. On a remporté une victoire magistrale sur Jéricho. Aïe, beaucoup plus petite, beaucoup moins forte, on va envoyer simplement quelques hommes.
et ils ont pris une bonne défaite. Plusieurs sont morts, simplement parce qu'ils s'étaient confiés dans leur propre sagesse, au lieu de se confier en l'Éternel. Notre foi a aussi besoin d'être purifiée de la vue. Nous avons été appelés à marcher par la foi et non par la vue. La vue nous empêche de croire. La foi, selon la définition d'Hébreu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En Jean 20, 29, Jésus dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Un homme aveugle exerce constamment sa foi. Lorsqu'il donne le bras à quelqu'un, il est obligé d'exercer sa foi. Quand on lui dit « Avance ici, il y a le trottoir », il est sans cesse obligé d'exercer sa foi parce qu'il ne voit pas. Notre foi a besoin d'être purifiée de toutes les choses que l'on voit. Abraham n'a pas considéré les choses qu'il voyait. Il a considéré celui justement qu'on ne voyait pas, l'Éternel qui a fait la promesse. Paul a exercé sa foi bien des fois. Lorsqu'il a fait naufrage, Dieu s'est révélé à lui et lui a dit « T'inquiète pas, juste avant que le naufrage ait lieu, ça faisait 14 jours qu'ils n'avaient pas vu le soleil. » C'était la tempête, ils n'avaient pas mangé depuis deux semaines. Et le Seigneur s'est révélé à lui et lui a dit « Ne t'inquiète pas, personne ne périra. » Et l'apôtre Paul a dit « J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, non pas comme je vois, mais comme il m'a été dit. » À ce moment-là, on ne voyait pas à 2 mètres tellement la tempête était terrible. Et Paul avait une foi totale dans ce que Dieu avait dit. Notre foi ainsi débarrassée pourra s'appuyer sur ce qu'elle connaît de Dieu. Vous vous souvenez, bien sûr vous en souvenez, quand Abraham a plaidé avec Dieu, quand Dieu a dit à Abraham, « Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. » Abraham s'est approché de l'Éternel et a dit, « C'est pas possible que tu détruises Sodome et Gomorrhe parce que peut-être il y a 50 justes dans cette ville. » Et faire périr le juste avec le méchant, ça ne te ressemble pas. Tu n'es pas capable de faire une chose comme celle-là. Parce que tu es juste. Parce qu'en toi, il n'y a pas la moindre iniquité. Parce que tu es droit. Parce que tu ne peux pas faire périr le juste comme le coupable. Et c'est là qu'il a plaidé. Et peut-être il y aura 50 justes. Et puis ensuite, vous vous souvenez, 45, puis peut-être 40, ou 30, ou 20. Il a parlé encore une fois, peut-être 10. Il n'y avait pas les 10. Alors, il a détruit la ville. Mais les seuls justes qu'il y avait, Dieu les a épargnés. Et Abraham avait une foi dans ce Dieu-là, dans un Dieu qui est juste, qui est droit. Et c'est pour cela qu'il a plaidé de la sorte. Et puis, quand notre foi est débarrassée de toutes ces choses, lorsque notre foi peut s'appuyer sur ce qu'elle connaît de Dieu, elle peut aussi s'appuyer sur la compréhension de ses plans. On sera éveillé à ses desseins pour le monde, pour l'Église, pour nous-mêmes. Quand on a regardé ce film avec ces 5 missionnaires qui ont péri, même après avoir vu le film, même après avoir vu ce que Dieu a accompli après, plusieurs ont dit, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis une telle chose. voyez, notre foi, elle est pleine d'impureté. Parce qu'elle ne repose pas sur ce que Dieu est. Sur ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. C'est-à-dire, on ne peut pas faire mieux que le dessein de Dieu. Dans sa bonté, dans sa sagesse infinie, Dieu a permis que ces cinq hommes meurent sitôt avoir posé le pied auprès de ces Indiens. Parce que le meilleur plan, c'était celui-ci, pour toucher toute cette tribu. Voyez-vous, quand notre foi elle est purifiée de toutes sortes d'impuretés, on comprend ce que Dieu fait. On l'accepte. On reconnaît sa main. On entre dans ses voies, dans ses plans. Et puis, notre foi repose sur la communion avec Dieu. La communion avec Dieu nous permet d'appliquer ce qu'il est et ce qu'il fait, ses plans, pour notre vie et notre temps. Voyez-vous, Abraham, il avait une telle communion avec Dieu que Dieu a dit, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et puis Abraham, à cause de la foi qu'il avait dans ce Dieu, eh bien, il a été appelé l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Alors, comment est-ce que notre foi peut progresser? Les disciples ont prié, Seigneur, augmente-nous la foi. Peut-être on pourrait prier, Seigneur, purifie notre foi. Et ça, c'est davantage conforme à la pensée de l'apôtre Pierre qui a dit que notre foi, elle peut être purifiée. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. L'or est purifié. Et notre foi doit être purifiée aussi. Et comment elle peut être purifiée? Eh bien, en allant vers le Seigneur. Au moins, les disciples ne se sont pas trompés. Ils sont allés vers Christ. Parce que c'est Christ qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Il est l'auteur de la foi. Et donc, c'est vers lui qu'on doit aller. Et chercher, Seigneur, demander au Seigneur, purifie ma foi. Et aussi, par la mise en pratique. La foi est comme un muscle, elle se développe si on l'utilise. Malheureusement, souvent on cherche à pallier à toutes les occasions d'expérimenter, de mettre notre foi à l'œuvre. Georges Müller, fondateur de plusieurs orphelinats dans la banlieue de Londres, a nourri, vêtu, enseigné et instruit dans la foi des milliers d'enfants sans jamais faire connaître ses besoins qu'au Seigneur seul. Il a tout demandé dans la prière avec foi et il a expérimenté des milliers d'exaucements, des centaines de délivrances de la part de Dieu. Aussi, il avait une foi audacieuse. Il pouvait prier pour que le brouillard se lève et à l'instant, et le brouillard s'était levé. Il pouvait rendre grâce pour la provision de Dieu alors qu'il n'avait rien et avoir tout, tout ce qui est nécessaire l'instant d'après. Il avait une connaissance de son Dieu, de ses voies, une confiance entière en lui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Georges Müller a choisi de faire confiance à Dieu. Abraham a choisi de faire confiance à Dieu plutôt qu'à ce qu'il voyait. Et nous pouvons grandir dans la foi en choisissant de faire confiance au Seigneur plutôt qu'à ce que l'on voit, à ce que l'on possède ou à toutes les choses qui peuvent, aux hommes et tout ce qui peut nous entourer. Paul parle de l'œuvre de votre foi. Jacques affirme que la vraie foi produit des œuvres. Tous les héros de la foi, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, ont cru. Et comment est-ce qu'on sait qu'ils ont cru ? Parce qu'ils ont agi. Parce qu'ils ont agi. Nous devons être des croyants, mais des pratiquants. C'est-à-dire qui mettons notre foi en œuvre. L'un des exercices de la foi, c'est la prière. Si nous croyons, alors nous prions. Si nous ne croyons pas, nous ne prions pas. Aussi, nous pouvons progresser dans la foi par la connaissance de Dieu. Plus je connais le Seigneur, plus je comprends qu'il est entièrement digne de confiance. On va voir dans les prochains jours que Dieu va encore mettre Abraham à l'épreuve. Et il lui a dit, Abraham, donne-moi ton fils. Monte sur la montagne et la sacrifie. Et Abraham va prendre son fils dès le matin. Il va obéir comme cela. Il va partir. Pendant 3 jours, ils vont marcher. Ils vont pour arriver à Morija. Et à Morija, il prend le bois, il prend son fils, il prend le feu, il prend le couteau et il monte. Et puis là, il installe le bois, il installe son fils et il s'apprête à égorger Isaac. Parce que Dieu lui a demandé de le faire. Il a une foi absolue dans son Dieu et il sait, et nous savons aussi parce que Hébreux 11 nous le dit, que Dieu va lui donner une postérité par le Fils qu'il va sacrifier. Il est assuré que de toute manière, Dieu devra le ressusciter d'entre les morts pour pouvoir lui donner une postérité par lui. Et Dieu dit, Abraham, Abraham, je sais maintenant, tu as entièrement confiance en moi. Et puis il présente le substitut. Voyez-vous cette démonstration de foi merveilleuse. Et il faut connaître son Dieu pour cela. On a besoin d'apprendre à connaître qui est Dieu. De méditer sur sa personne, sur sa fidélité, sur sa bonté. De sorte que notre foi, elle repose sur lui. Qu'elle ne soit pas ébranlée par les premières circonstances ou les premières choses visibles. Nous avons besoin de chercher dans la parole de Dieu les promesses de Dieu et de les faire nôtres. Est-ce qu'il y a des promesses dans les Écritures ? Dit, j'ai expérimenté cette promesse-là. J'ai pris Dieu au mot. Je sais que Dieu ne peut pas me tromper parce qu'il a promis ça. Il m'a promis cela. Méditez ces promesses. Bénissez, louez le Seigneur pour ses promesses et emparez-vous de ses promesses. Aussi, nous pouvons progresser dans la foi dans les épreuves. Et Dieu ne cherche à purifier notre foi, et pour purifier notre foi, eh bien, il envoie bien souvent des épreuves. Et c'est ce qui s'est passé pour les Thessaloniciens. C'était dans la fournaise de l'épreuve que leur foi a été purifiée. Oui, si nous voulons grandir en foi, eh bien, ce sera aussi là, au travers des circonstances difficiles, au travers de l'adversité, quand tout semble s'effondrer, et que nous pouvons seulement placer notre confiance dans le Seigneur. Dieu parfois nous conduit dans des circonstances comme cela pour nous mettre à l'épreuve et aussi pour nous faire progresser dans la foi. Vous vous souvenez de Shadrach, Meshach et Abednego? Ils ont été mis dans la fournaise aussi. Leur foi a été inébranlable. Leur foi a été inébranlable. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, tu peux nous jeter dans la fournaise, mais sache une chose quand même, c'est que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Sinon, de toute manière, nous n'adorerons pas la statue. Ils étaient prêts aux deux éventualités. Pour Dieu, pour eux, il n'y avait pas le moindre souci. Dieu ne supporte pas l'idolâtrie. Oui, mais nous, on est du côté de Dieu. Dans la fournaise, on sera du côté de Dieu. C'est ce qui s'est produit. Et Dieu était là dans la fournaise. Et il les a délivrés. Mais Hébreux 11 nous dit que quantité de chrétiens n'ont pas été délivrés de cette fournaise. Et qu'ils sont morts. Vous vous souvenez de ce que Jim Elliot a dit à son fils Stevie, je ne me souviens plus trop, juste avant de monter dans l'avion? Quand Stevie lui a dit, son fils lui dit, mais si tu es agressé, est-ce que tu vas tirer sur ces hommes? Il a dit, mais non. Et non, je ne vais pas tirer sur eux. Moi, je vais au ciel. Mais eux, ils ne vont pas au ciel. Ils ne sont pas prêts à mourir. Tirer sur eux, ce serait les envoyer en enfer. Alors que s'ils me tuent moi, ils m'envoient au ciel. Et Jim avait cette foi tellement simple, tellement assurée dans la réalité, il a pu dire à son fils, mais non, tu comprends? Mais nous, on se revoit, on va passer l'éternité avec Dieu, aucun souci. Mais c'est eux qui n'ont pas le Seigneur. C'est eux qui n'ont pas cette espérance. Nous nous disons croyants, parce qu'un jour nous avons cru en Jésus-Christ pour le salut de notre âme. Est-ce tout? Est-ce tout? Est-ce qu'un croyant, c'est celui qui croit une seule fois? Ou qui croit qu'une seule chose? Oh non. Ça n'a rien à voir avec cela. Un croyant, c'est quelqu'un qui vit par la foi. La foi doit animer notre vie tout entière. Tout entière. Nous sommes appelés croyants parce que nous aimons Christ sans l'avoir vu. Parce que nous croyons en lui sans le voir encore. Et parce que l'assurance de vivre éternellement dans sa présence nous remplit constamment d'une joie merveilleuse et glorieuse. Nous sommes appelés croyants parce que nous invoquons notre Dieu. Nous sommes appelés croyants parce que nous vivons pour le ciel. Parce que nous nous attendons à lui dans les choses quotidiennes. Nous sommes appelés croyants parce que notre désir en toute chose est de glorifier notre Dieu. Nous sommes appelés croyants parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les visibles sont passagères et que les invisibles sont éternelles. C'est pour ça qu'elles sont bien plus précieuses. Nous sommes appelés croyants parce que nous croyons, selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, que la terre, que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Nous croyons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, qui est un sacrifice bien plus excellent que toutes les œuvres. Nous croyons que le témoignage de Dieu dans nos cœurs, que nous avons par le Saint-Esprit, nous rend agréables au Seigneur. Nous croyons et nous avertissons le monde que le jugement est à venir. Et nous sommes dans l'âge, comme Noé, avec notre famille, Nous croyons les promesses de Dieu et nous vivons comme voyageurs et étrangers sur la terre, comme Abraham. Nous croyons et nous sommes des adorateurs comme Isaac. Nous croyons et nous regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de ce monde, comme Moïse. Nous croyons et nous craignons celui qui est invisible. Voilà ce que c'est qu'un croyant. Est-ce que nous aurions à prier, Seigneur, augmente-nous la foi, ou Seigneur, purifie ma foi de tout ce qui la parasite, de tout ce qui l'empêche d'être simplement posé sur toi en pleine confiance. Oh, que Dieu gagne nous secourir, que l'année à venir, dans les difficultés que l'on traversera, dans les soucis, dans les luttes, dans les tourments, ce soit des occasions que notre foi fasse de grands progrès. Que l'année prochaine, ce rendez-vous, on puisse dire, oui, ma foi a fait de grands progrès. Des progrès démesurés, parce que j'ai appris à connaître mon Dieu, à lui rendre grâce, à vivre dans la dépendance de lui et lui faire confiance. Que Dieu nous bénisse. Alors, ça, je vais dans la prière, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Seigneur, nous voulons les prendre de toi. Seigneur, nous voulons apprendre à reconnaître, Seigneur, qui tu es. Nous voulons que notre foi soit purifiée, Seigneur, de tout ce qui la parasite, Seigneur, nos propres pensées, nos propres expériences, notre propre sagesse, nos propres biens, nos propres finances, Seigneur, nos propres amis, nos propres parents, nos amis, ceux qui nous entourent. Et Seigneur, nous voulons que notre foi repose sur toi seul. Seigneur, apprends-nous cela. Et si nous connaissons des luttes, si nous connaissons de la tourmente aujourd'hui, le Seigneur permet que ce soit une occasion pour nous et que nous la regardions comme telle. Une occasion d'expérimenter, Seigneur, la purification de notre vie. Seigneur, que toi seul, tu sois l'objet, Seigneur, de nos pensées. Par Jésus-Christ, on te prie. Amen. Amen.